Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Bienvenue dans Les Jeux du Mois, une émission de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis BenoFX et pour ce mois-ci, je suis accompagné de l'ami Cyrus. Salut Cyrus.
Salut BenoFX.
Comment vas-tu ?
Bah écoute, ça va, ça va. Je crois que vous avez bien assuré hein, pendant que j'étais pas là.
Bah ouais, il faut bien.
Hein. Avec Twin.
Le jeune Twin commence à avoir de l'aisance.
Puisqu'on en parle, le dernier épisode, donc c'était Twin et toi, et vous aviez parlé de Villainous et de Undo.
Undo, tout à fait.
On a quelques commentaires. On a Ruevol qui a découvert notre podcast sur ses chroniques, visiblement. Qui nous dit texto, j'aime beaucoup votre manière de présenter les jeux avec leurs qualités et leurs défauts, les sensations que vous avez eues en jouant et la comparaison avec d'autres jeux existants. L'idéo marche bien et les questions posées rendent le propos interactif.
Ben merci pour ce commentaire, ça fait plaisir hein, ce genre de commentaire toujours.
Ouais et puis je pense qu'il a bien saisi l'essence du coup de la chronique parce que c'est pile poil effectivement ce qu'on cherche à faire.
Tout à fait. Ensuite sur les jeux en eux-mêmes, sur Villainous, on a Ludiculture notamment qui nous a dit qu'il rapprochait Villainous de Magic avec des règles bien sûr bien plus simplifiées des decks préconstruits. Alors c'est vrai que je l'ai pas évoqué alors que dans ma tête j'avais ce comparatif avec les jeux de cartes type Magic et c'est vrai que en réécoutant la chronique je l'ai pas évoqué. C'est un oubli de ma part.
Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a des similitudes il y a des sensations identiques, c'est vrai. Mais il y a quand même moins, enfin ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il n'y a pas le côté board affrontement où en gros c'est chacun son tableau à lui et de ce qui va se passer des trucs, mais t'interagis pas directement sur le tableau d'un autre. Tu peux dire je provoque un effet sur le tableau de l'autre, mais tu sais même pas lequel effet tu vas provoquer. Donc c'est un peu.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est beaucoup plus limité dans le sens où il y a très très peu, voire pas du tout de combos dans Villainous. Enfin, il y a pas de synergie de cartes ou ce genre de choses. Même s'il y a des cartes qui vont mieux avec d'autres ou en tout cas qui sont en accord avec l'objectif que tu dois remplir, mais il n'y a pas une notion de combo d'une carte qui va déclencher plein d'autres effets, etc. C'est beaucoup plus c'est des règles simplifiées, c'est plus que simplifié quoi, c'est un jeu de cartes avec des cartes avec des effets et différentes classes, enfin différentes catégories de cartes, et en ça effectivement c'est plutôt rapprochable de Magic, mais effectivement de manière beaucoup plus light.
Il y a le Pionfesseur qui a écrit un article chez Ludovox sur Villainous où il parle effectivement de son comparatif avec Magic dans la première partie, donc si ça vous intéresse de creuser sur ce comparatif, vous pouvez aller voir sur cet article.
On pourra mettre le lien dans la fiche. Et ensuite sur Undo, Grovas nous dit que il a pas été convaincu par son essai d'Undo. Il a fait un scénario et il dit qu'il a pas été convaincu pour les raisons qu'on a évoquées dans l'épisode. Donc on va pas vous refaire toutes les raisons maintenant, mais si vous n'avez pas encore écouté l'épisode, c'est l'occasion d'y aller.
Ouais, il y avait cette histoire d'effet papillon en gros qui est pas super probant. Puis je sais plus ce qui est critiqué aussi.
C'est surtout le fait en fait que effectivement toutes les actions qu'on fait dans le passé ont lieu en même temps, donc il y a pas de lien de cause à effet d'une action à l'autre, c'est très donc l'effet remonté dans le temps est finalement assez un peu décevant sur ce côté-là. Après les scénarios sont plutôt sympas et ça joue bien hein. Moi vraiment je reste sur mon comparatif d'une espèce de Black Stories mais sans maître du jeu en fait. Il y a vraiment le côté on va se questionner, découvrir un peu des éléments au fur et à mesure et reconstituer une histoire.
Ouais. Avec des histoires un peu d'ailleurs abracadabrantesques, je trouve. Franchement.
Parfois un petit peu.
Ouais, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait que la démo et un autre. Et franchement, quand tu prends du recul, tu fais chelou quoi.
C'est ça. Dans les Black Stories, c'est souvent très capillotracté. Hein.
C'était les commentaires. Il y en a d'autres, mais voilà.
On a fait une petite sélection.
On a sorti un peu les éloges et tout ça.
Il y a un commentaire d'ailleurs qui a donné lieu à une chronique spéciale de Twin ce mois-ci.
Oui, c'est vrai, ouais, exactement. Sur comment refaire ses paquets de cartes, rattacher ses cartes entre elles. Ouais.
Tout à fait.
On vous laisse aller écouter les dernières chroniques. Donc c'était les chroniques 111.
Bon, bah, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, mon cher Cyrus?
Eh bien, moi, je vais vous parler de Fiesta de los Muertos. Je sais pas si je le prononce bien. J'ai pas fait d'espagnol, moi.
C'est un très bon choix. Je pense que si tu ne l'avais pas chroniqué, je me serais emparé du sujet.
Ah, dis-le que je te l'ai volé, c'est ça?
Non, pas du tout. Je n'oserais pas. Et moi, du coup, je vais vous parler de Poulpoul.
Eh ben, c'est un très bon choix aussi.
On reste dans les jeux d'ambiance.
Bah, je pense que c'est plutôt de bon ton, parce qu'il y a Noël qui arrive avec les fêtes de fin d'année et tout ça. Je trouve qu'au final, c'est une sélection qui se prête pas mal à la période. Donc,
Je suis d'accord. Bah, je te laisse commencer par la Fiesta de los Muertos.
Allez, on va faire la fête, c'est parti. Alors, Fiesta de los Muertos, c'est un jeu d'Antonin Bocara. C'est un jeu qui a été illustré par Margot Renard et Michel Verdu et qui est édité chez Old Chap Games. C'est un jeu pour 4 à 8 joueurs, annoncé pour des parties de moins de 30 minutes. Et à partir de 12 ans, il est en vente chez Philibert à 22,50€. Alors le principe de Fiesta de los Muertos, donc on l'a dit, c'est un jeu d'ambiance. On est le 2 novembre au Mexique, et le 2 novembre au Mexique, c'est le jour de la fête des morts. Et donc nous sommes tous réunis pour nous rappeler des morts et donc les fêter.
Pour ceux qui ont regardé le film Coco, c'est ce jour-là.
Ouais, j'avoue, je l'ai pas vu.
Le Disney Coco. C'est un excellent Pixar. Ouais.
Voilà, j'aurais dû me documenter en regardant Coco.
Je l'ai revu ce week-end, c'est pour ça que j'y pense. Mais c'est un très bon Pixar. Mais alors je sais pas si c'est le 2 novembre, mais c'est effectivement le jour de la fête des morts et en fait les vivants. Rappelle les morts auprès d'eux. Ouais.
Voilà, donc en fait, le jeu va retranscrire un peu cet aspect-là. Comment ça va se passer? Chaque joueur va recevoir une carte d'un personnage qui va être le seul à connaître, du coup. Et c'est un jeu coopératif, donc à la fin, il va falloir que tout le monde retrouve les différents personnages qui sont cachés sous des crânes. On a des ardoises en fait qui se plient et qui sont en forme de crâne, qui rappellent d'ailleurs l'esthétique de la Fiesta de los Muertos.
Qu'on retrouve dans Skull aussi un petit peu cette
esthétique. Oui, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Et donc chacun va recevoir comme ça un personnage. Il va écrire le nom de ce personnage sur le crâne, le refermer de façon à ce que plus personne ne le voit. Et on va ensuite, il va ensuite écrire un mot qui va lui faire penser à ce personnage. Sachant que ce mot ne doit pas être un nom de personnage lui-même, de personnage, et que c'est un seul mot. Les règles se limitent à ça, et ensuite, ce qui va se passer, c'est que il va passer ensuite ce crâne au joueur suivant, qui va effacer le mot et écrire un mot qui lui fait penser au mot précédent.
Il n'a toujours pas le droit de mettre de personnage.
Évidemment, lui, il n'a pas vu le nom du personnage qui est caché. Et en fait, donc tout le monde fait ça, donc les crânes vont tourner autour de la table. Et on va faire ça 4 fois. Donc il y aura 4 mots qui auront été écrits, puis successivement effacés. À la fin, il va rester un seul mot, celui du 4e joueur qui aura reçu le crâne dans sa main. C'est le principe du jeu du téléphone. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'information est censée se dégrader au fil des passages d'un joueur vers l'autre.
Après, ce qui est marrant, c'est que c'est pas toujours le cas. Des fois, ça boucle.
C'est vrai que il y a ces, j'allais dire ces parties, à chaque fois c'est sur un personnage, on va avoir des schémas qui vont être très différents, et effectivement on peut avoir ce schéma où il y a un mot qui boucle parce que finalement on va trouver des synonymes qui se répondent. Je sais plus ce que j'ai eu dernièrement.
Ah, moi j'en ai eu un dernièrement, c'était Pythagore le personnage.
Oui.
Et du coup la première personne a mis triangle. La deuxième a mis isocèle. Et donc la troisième a remis triangle.
Ouais.
Donc tu peux avoir comme ça des associations qui se... Et je crois que la dernière a mis Bermude par contre, tu vois. Ça n'a eu plus grand-chose à voir avec Pythagore au final.
Ouais, effectivement. Ouais. Mais voilà, là déjà vous comprenez un peu ce qui peut se passer autour de la table. Donc il y a comme ça un personnage par joueur. Et à la fin, on va poser les personnages au milieu de la table avec les mots qui ont été... qui sont le dernier mot qui est associé au personnage. Et on va faire en sorte qu'il y ait 8 personnages. Donc on va reprendre les cartes du début. On va les mélanger avec d'autres cartes pour s'assurer qu'il y en a 8. Alors évidemment, si on est 8 joueurs, on n'en ajoute pas.
Il y aura 8 crânes, ouais.
Comme je rappelle, ça joue de 4 à 8. Donc on rajoute des personnages, on étale les 8 personnages et chacun doit ensuite retrouver quel est le personnage associé à quel crâne. Mm. Voilà, c'est ultra simple. Ça fait, je pense que à la description, si vous connaissez les deux jeux que je vais citer maintenant, ça vous aura forcément évoqué ces deux jeux. Ça fait penser à Just One, qu'on a déjà chroniqué dans, bah, c'est toi qui l'avais chroniqué,
fait,
je crois,
ouais.
il y a à peu près un an, peut-être moins.
Il y a une petite année, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, pile un an, je crois, c'était pile un an.
Et en plus, moi, j'en ai reparlé dans la chronique de Noël, que vous aurez écouté, nous, à l'heure où on l'enregistre. La chronique n'est pas diffusée, mais voilà. Donc, le principe tout simple de, j'ai un mot à faire deviner, et je ne dois donner qu'un seul mot en lien avec ce mot. Et en même temps, ça reprend le principe de esquisser. Alors là, les anciens auditeurs doivent se rappeler que les anciens chroniqueurs de Proxy Jeux, enfin les anciens animateurs, en fait, les anciens animateurs étaient assez fans d'esquisser. Donc ils en reparlaient assez régulièrement. Mm. Donc là, vous avez vraiment le mash-up des deux jeux. Pour moi, c'est vraiment la rencontre entre Just One et esquisser.
Un bon mash-up.
Ouais, c'est vraiment un bon mash-up. C'est alors. Par rapport à la production d'Antonin Bocara, ça n'a pas grand-chose à voir. Donc Antonin Bocara, c'est l'auteur de Panic Island, qui est plutôt un jeu de mémoire et de rapidité, un jeu frénétique. Kids of London, où là, il y a un peu de guessing, un peu de... en fait, c'est un jeu qui a la particularité de... il faut être deuxième dans le jeu, en fait, pour gagner. Oui. Et puis alors il est auteur d'aussi d'autres jeux, hein, mais il y a aussi Attack of the Jelly Monster qui était chez Libellude, qui est pas un jeu qui a trop bien marché, qui est aussi un jeu frénétique. Donc il fait des choses assez différentes quand même globalement, et il tente plutôt des trucs qui ont une petite originalité. Et là je trouve que il est vraiment tombé sur un truc assez évident. Et qui, évidemment, et qui marche super bien. C'est-à-dire que vraiment, moi j'avais reçu une communication de Holdchap par mail. Et il y avait un visuel super bien fait, hein, qui explique vraiment comment le jeu se joue. C'est-à-dire qu'en quelques images, ça explique nickel comment ça se joue. Oui, d'ailleurs, c'est bien expliqué d'ailleurs sur le dos de boîte. Et en gros, quand on a lu ça, en fait, on a tout compris du jeu. Et la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit ok, mais ça doit pas marcher, quoi. C'est-à-dire que ça doit vite partir en vrille et impossible de retrouver les mots ensuite. Mais en fait, si, enfin les personnages, pardon. Et en fait, si, ça marche carrément bien. Il faut jouer entre guillemets de façon correcte. Faut comprendre qu'il faut pas trop s'éloigner du lexique qui a été proposé au début. Puis il faut pas que le lexique proposé au début soit non plus complètement déconnant, mais en fait on se rend compte que qu'on y arrive. D'ailleurs, même je trouve que parfois il y a des parties qui peuvent être un peu trop faciles si le tirage initial est trop hétéroclite. Ouais. Je sais pas si t'as eu aussi cette expérience, mais
Ouais, tout à fait. Après, j'ai eu l'expérience contraire aussi, où on a, alors je sais pas, le jeu était neuf, j'ai peut-être mal mélangé les cartes et je ne sais pas comment elles sont triées, mais on s'est retrouvé dans une partie où dans la même partie, on avait Pythagore, Archimède, Galilée et Newton.
Ouais, là j'avoue c'est chaud.
Et là, c'est un peu chaud, quoi, parce que ça part vite en science, en machin, en truc, alors on a quand même retrouvé un certain nombre de personnages, mais bon, on a, sur la partie là, on était 6 ou 7 je crois, on a à peine validé 3 ou 4 crânes, quoi. Il y en a beaucoup qui sont restés.
Ouais, alors effectivement, tiens d'ailleurs, puisque t'en parles, j'ai pas expliqué, mais effectivement à la fin, globalement le but c'est que tout le monde trouve. Alors on a le droit à une erreur, c'est-à-dire que s'il y a une personne autour de la table qui a pas trouvé, c'est bon. Et puis un système de joker, bon, je passe un peu dessus, mais en gros, si tout le monde a trouvé, ça donne un petit bonus qu'on peut remettre sur un crâne sur lequel les gens n'ont pas trouvé. Le but étant de faire le meilleur score possible. Il n'y a pas dans le livret de règles, il parle pas vraiment de victoire, de défaite. Bon, on comprend que...
Oui, ça m'a étonné d'ailleurs par rapport aux autres jeux un peu du même style, c'est qu'il n'y a pas d'échelle de valeur, quoi. Enfin, il n'y a vraiment rien, quoi, qui dit si t'as gagné ou t'as perdu. Ils disent qu'il faut valider le plus de crânes possible, mais ça s'arrête là en fait. Il y a pas cette petite échelle de c'est bien ou recommencer ou parfait, enfin comme il peut y avoir dans Just One ou dans d'autres jeux du style.
Ouais, sauf que dans ces jeux-là, il y a toujours, enfin dans les autres jeux, il y a toujours le même nombre de choses à deviner. Tu sais, donc du coup l'échelle elle est tout le temps la même. Alors que là, si t'es à 4, il y en a 4 à deviner. Si t'es à 8, il y en a 8. Du coup, il aurait fallu, je pense, faire des échelles différentes. Bon, ils ont fait simple, quoi. En gros, pour les vrais joueurs, il faut tous les trouver. C'est évident.
C'est ça.
Ouais, donc il y a quand même des petites astuces pour entre guillemets bien jouer. Moi, je vous conseille, si vous voulez trouver, de de pas les dispenser, en fait, de laisser un peu les gens jouer et par eux-mêmes de se rendre compte que effectivement il y a des astuces. Moi je trouve que ça fait partie du plaisir de jeu de comprendre comment non pas le craquer, parce qu'on n'en est pas là quand même, et puis je veux dire, c'est pas parce que vous allez bien trouver le bon premier mot que derrière les autres vont forcément bien le suivre, mais il y a quand même des petits trucs pour bien jouer, quoi. Je parlerai pas de stratégie, mais bon.
Oui, après, il faut aussi connaître un peu les gens autour de la table pour savoir un peu aussi si tu peux aller sur des choses, des références un peu tordues ou des mots un peu farfelus. Ouais. Et alors, je sais pas si t'as déjà eu le cas, mais nous, on a eu le cas aussi de gens qui connaissaient pas le personnage qu'ils ont tiré. Et en fait, sur la première partie, on a eu ça, la personne s'est pas forcément manifestée. Et du coup, a mis un mot un peu random, quoi, ce qui fausse complètement la partie. Donc, on s'est dit, en fait, que, voilà, si quelqu'un tirait une carte d'un personnage qu'il ne connaissait pas du tout, il en retirait une, quoi. Pour éviter que ça parte, en fait, sur des intuitions. Je sais plus qui on avait,
C'est écrit dans les règles, ça, hein.
Oui, c'est écrit dans les règles.
Il te le conseille de le faire.
Je sais plus sur qui on est tombé, mais voilà. Ouais, mais si tu veux, première partie qu'on a faite à l'assaut, je suis reparti sur les règles qu'on m'avait expliquées. J'ai pas forcément relu les règles dans les détails et fait gaffe à ça. Et du coup, on a eu le cas en fait qui s'est présenté. Donc on s'est dit bah oui. Enfin après, on a lu les règles. Effectivement, c'est écrit dans la règle. Mais on s'est dit c'est logique en fait, parce que si tu pars sur un mot qui n'a aucun rapport avec le personnage, t'es sûr de jamais le trouver, quoi.
Oui, c'est sûr. Ouais, bah ça gâche l'expérience au final. Donc autant. Enfin, je trouve que c'est très bien de l'avoir précisé dans les règles justement, quoi. Voilà. Bon, comme d'habitude dans cette chronique, on essaie de parler un peu de l'adéquation avec le thème. Et en fait, je trouve que, j'ai réfléchi au sujet. Alors, c'est vrai qu'esthétiquement, bon, c'est évident, ça me paraissait évident que esthétiquement, le jeu était vraiment super calé dans le thème.
Ouais.
Donc on retrouve cette crâne, cette esthétique très colorée, noir et blanc en plus, beaucoup de couleurs, de touches de couleurs qui fait vraiment le caractère de cette fête. Ce qui est important à préciser aussi, c'est que les cartes de personnages sont bien des personnages réels ou fictifs décédés. Donc soit décédés dans la fiction, soit décédés en vrai.
Alors pour les fictifs, je me posais la question, parce que j'ai eu l'impression d'en voir et ne pas me rappeler qu'ils étaient décédés dans la fiction.
Ouais, bah ça spoil un peu. Hein.
Ouais, non mais c'est tous les personnages fictifs décèdent dans la fiction.
Bah il me semble bien, ouais. Ouais. Okay. Après je voudrais pas être catégorique, mais je pense que c'était l'objectif en plus du truc. Hein. Donc typiquement dedans, allez,
oui.
Attention spoiler, il y a la maman de Bambi. Il y a des personnages comme ça, c'est vrai que la première fois tu joues, tu fais mais pourquoi ils ont mis la maman de Bambi et pas Bambi, tu vois. Mais en fait, bah oui,
parce que Bambi elle est pas morte.
Voilà, elle est morte. Tu vois. Donc tu fais pas forcément le rapprochement au début, mais après tu fais mais je suis con, c'est que des morts, quoi.
Mais ouais, je sais qu'il y a des personnages où je me suis posé la question en fait.
Non mais moi aussi, je t'avoue, mais il me semble que du coup, ça me paraît très plus logique quand même.
Oui, ça me paraît logique aussi.
Et en fait, alors je sais pas si c'est un hasard, mais en fait je trouve que l'air de rien, le jeu retranscrit bien le principe d'une tradition qui pourrait être orale ou écrite, tu vois, ou
d'un souvenir en fait.
Ouais, d'un souvenir qu'on a sur une personne et qui potentiellement peut s'effilocher de génération en génération. Ou tu vois, moi je verrais bien le jeu comme finalement quand tu passes le crâne à ton voisin de gauche, mais en fait c'est comme si tu passais le relais à une génération suivante où ouais. Tu évoquais la personne décédée. Quand tu recadres là-dessus, tu fais mais en fait c'est hyper malin, quoi, parce que finalement ce geste de passer, tu vois, le truc, ben tout est là, quoi. Sauf que du coup j'ai plutôt l'impression que c'est un hasard plutôt qu'une vraie volonté, parce que tu vois, au niveau du thème, c'est pas ça qui est expliqué, quoi.
Ouais, tu crois que c'est un hasard? Je sais pas. Parce qu'effectivement, ça marche plutôt bien. Et si tu avais regardé Coco, tu verrais que donc les morts ont un peu une seconde vie dans l'au-delà, tant qu'on se souvient d'eux en fait.
Oui.
Et quand les morts sont oubliés par les vivants, en fait, ils disparaissent de même de l'au-delà en fait. Il y a vraiment ce côté, tant qu'on se souvient d'eux et qu'on parle d'eux, même si c'est pas la vérité ou si c'est pas le bon souvenir qu'on a d'eux, tant qu'on se souvient d'eux, ils perdurent dans l'au-delà, et quand on arrête de, quand on les oublie, ils disparaissent. Donc il y a vraiment ce côté-là. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est très très finalement très très raccord avec le thème. Alors après, est-ce que c'est volontaire ou pas, je sais pas trop le dire.
Bah ouais, je sais pas,
c'est une coïncidence, c'est une sacrée coïncidence, quoi.
Bah oui, voilà, c'est ça, ouais. Après peut-être que c'est pas voulu, mais que quelque part, tu vois, dans l'esprit de l'auteur, bah en fait ça, c'est le chemin s'est fait tout seul, quoi. Je saurais pas dire, mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, tu vois, typiquement aussi, dans cet esprit de raccord avec le thème, il parle d'apaiser les morts. Alors que je sais pas si c'est vraiment le bon terme par rapport à la, parce que à côté, dans l'introduction, je crois, du livret, il parle bien de se souvenir des morts.
Ouais.
Juste s'en souvenir pour qu'il perdure justement ce que t'as expliqué là à l'instant. Ouais. C'est un peu dommage, je trouve, qu'il y ait eu ce petit mélange et que ça ait pas, enfin, qu'ils aient pas creusé vraiment dans le sillon du thème de départ, plutôt que de parler d'apaiser les morts, mais juste le souvenir, quoi, tu vois. J'aurais trouvé ça finalement même plus poétique, parce que le côté j'apaise les morts, bah, comme s'il y avait un vrai comme problème, s'ils étaient tourmentés, qu'il y avait quelque chose de, comment dire, de conflictuel dans le jeu, alors que, en fait, non, quoi.
Ouais.
Voilà, bon, c'était mon ressenti sur l'adéquation thème mécanique. Qu'au final, en tout cas, je trouve quand même super bien trouvé. Voilà, je vais accorder le bénéfice du doute à l'auteur. S'il nous écoute, ce serait bien d'avoir son retour.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Sur ce sujet. Ce que j'ai trouvé aussi vraiment sympa dans le jeu, c'est le côté où tu vas refaire le chemin à rebours. Tu vois, j'ai ce mot-là. Qu'est-ce que ça pouvait être avant? Tu vois? C'est qu'est-ce qu'il y a pu y avoir avant, à quel personnage ça peut se raccorder avant même. C'est pas du tout le but du jeu, hein, parce que quand tu reçois l'ardoise, il faut vraiment mettre un mot en rapport avec le mot précédent. T'as pas d'autre indice, en gros, quoi. Si ce n'est la personne en lien est décédée. C'est tout, quoi.
Mais bon, c'est ça. Mais il y a de quoi faire.
Ouais, c'est ça, il y a de quoi faire. D'ailleurs, j'ai eu une expérience un peu à la con comme ça, c'est que j'étais tellement persuadé que le personnage c'était Lady Di que du coup, j'ai mis un mot en lien
avec Lady Di.
Ouais, avec Lady Di. Bon, parce que enfin il y a une raison, on était sur les contraintes, je vais y revenir après, mais du coup, on était d'autant plus restreint. Du coup, j'ai fait le pari que ça devait être Lady Di, parce que ça me paraissait tellement évident que c'était elle. Évidemment, quand on a retourné les cartes de personnages à la fin, il y avait pas Lady Di. Donc autant me dire que il y a un petit malaise autour de la table. Mais bon, bref. Et le jeu provoque des moments comme ça à la fin qui sont hallucinants, quoi, parce que quand tu retrouves pas toi-même ton propre personnage à la fin, tu fais
ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me souviens, j'ai eu Pocahontas qui s'est retrouvé qui a fini en Woodstock. Alors très précisément, moi j'avais donc c'est moi qui avais reçu ce personnage, j'avais mis Tipeee. Alors pareil, c'était une partie avec contrainte. Encore une fois, je vais l'expliquer après. D'accord. Mais le suivant avait mis Sitting pour Sitting Bull, tu vois. Mais sauf qu'il y a qu'un mot, c'est Sitting. Mais et déjà il a triché parce que Sitting Bull à la base c'est quand même un personnage. Mais bon.
C'est un personnage. Ouais,
mais
il n'a pas le droit.
Non mais oui, il a mis un Sitting. Donc forcément le suivant qu'est-ce qu'il a dit les Sitting. Qu'est-ce qui fait des Sitting? C'est des hippies. Il a mis hippies. Et derrière ça s'est retrouvé avec Woodstock. Enfin bref.
Parce que par contre t'as pas le droit de mettre un nom de personnage, mais il aurait pu mettre Indien par exemple, parce que ça c'est pas un personnage précis et ça fonctionne.
Oui mais alors je crois qu'on avait des contraintes sur ce truc là et je sais
d'accord.
plus.
C'est pour ça qu'il.
Ouais je sais
il
plus.
Un peu.
Je sais plus pourquoi il avait mis ça.
C'est un peu dérivé.
Mais peut-être qu'il fallait que ça commence par un S ou un truc comme ça. C'était peut-être bien ça, non? Je sais plus.
Mais on a eu aussi l'expérience dans la partie qu'on a faite ensemble, je crois, où un Léonard de Vinci est devenu araignée. Parce qu'à un moment, il y a eu peinture, il y a eu toile, et toile, il y a eu araignée qui est sortie.
Ah oui.
Mais en fait, quand tu les vois, je crois qu'en même temps, sur la même partie, il y avait Léonard de Vinci et il y avait Superman. Mmh. Et du coup, il y a des gens qui ont mis araignée pour Superman parce qu'ils pensaient Spider-Man, tu vois. Alors que moi, par exemple, j'ai fait assez vite le lien entre Vinci, toile et araignée. Et par rapport aux autres personnages, ça me semblait logique, tu vois. Après, tu fais aussi des fois par élimination, par rapport aux choses qui semblent très logiques et puis des trucs un peu moins logiques, mais t'arrives à raccorder les trucs. Mais effectivement, voilà, Léonard de Vinci peut devenir araignée au bout de 4 tours, quoi.
Ouais et ça crée comme ça des trucs assez fous, quoi. Ce que j'ai noté aussi sur le jeu, bon, je pense que vous aurez tous compris que le jeu se découpe en deux temps. Il y a cette phase où on se passe les ardoises et ensuite la phase de résolution. Et autant la première phase est quand même hyper studieuse, il y a quasiment pas de communication orale, si ce n'est tiens je te passe le truc, voilà, il y a pas le droit de communiquer.
Il y a pas le droit,
donc,
ouais.
Et la deuxième partie, elle, en revanche, c'est l'explosion, quoi. C'est-à-dire que, bah, une fois que tout le monde, en tout cas, a fait sa résolution, voilà, a noté ses choix. On fait la résolution finale et là, ça y va de, bah, attends, mais moi, j'avais mis tel mot, qu'est-ce que t'as mis ensuite pour qu'on arrive à ça, etc., etc., quoi. Et ça, c'est une différence, je trouve, avec Esquissé. C'est que, dans Esquissé, alors Esquissé, je rappelle quand même, le principe c'est on a un mot pour commencer, le joueur tourne la page sur laquelle il y a écrit le mot et il fait un dessin. Ensuite, le joueur suivant voit le dessin et il écrit un mot en rapport avec le dessin, en espérant donc donner le ce qu'est le dessin, quoi. Et le joueur suivant retourne, il voit le mot et il y fait un dessin, etc., etc. Donc en gros c'est quasiment le même principe, sauf qu'il y a des dessins dans Esquissé. Une fois sur deux, il y a un dessin, alors que là c'est vraiment juste un mot.
Oui.
Et dans Esquissé, en fait, tu vas remonter les classeurs. Parce qu'en fait, c'est comme des espèces de classeurs. Et tu vas regarder le mot, le dessin. Et tu vas rigoler, mais finalement, tu vas plus rigoler dans ton coin. Et,
il va pas y avoir de débat, en fait.
Ouais, c'est ça. Enfin, un petit peu quand même. N'exagérons pas. Si tu vas montrer le dessin, tu vas dire, mais ce machin-là, ça ressemble à rien. Mais ce que je trouve marrant dans Fiesta de los Muertos, que l'air de rien, l'ergonomie invite les gens à déjà s'écouter les uns les autres, parce que chacun son tour, on va débattre déjà d'un premier crâne et on va regarder qui c'était et qui a mis quoi et pourquoi, et redérouler tout le fil des mots qui ont été placés. Et tu vois, ça crée, je trouve, quelque chose de mieux que dans Esquissé. Plus de débats, plus de discussions ensuite.
C'est plus animé autour de la table.
Ouais. Et ça se rapproche un peu, je trouve, de Keeper Gagne. Dans Keeper Gagne, où tu as aussi cette phase studieuse où chacun va faire ses pairs. Donc là, on a tous des images et il va falloir les apparier, simplement, alors qu'elles n'ont potentiellement pas grand chose à voir les unes avec les autres. Et à la fin, on va comparer les pairs que les gens ont fait. Et il faut qu'on arrive à faire, les mêmes pairs que tout le monde, en gros, quoi. Il faut essayer d'être raccord avec tout le monde. Et donc, on cherche à être sur la même longueur d'onde que les autres. Tout comme, il faut que tout le monde soit raccord sur les mots les uns après les autres, quoi. Et, dans Keeper Gagne, à la fin, tu vas débattre de pourquoi t'as mis cette paire-là et pas celle-là. Enfin, ce truc-là, il a rien à voir et tout. Et tout le jeu, en fait, il est, dans Keeper Gagne, tout le jeu, il est là. Il est à la fin, en fait. C'est-à-dire que faire les paires, c'est pas super intéressant, quoi. Mais c'est, il y a la phase de débat après. Et dans Fiesta de los Muertos, là, les deux phases sont intéressantes pour des choses différentes. Mais les deux phases sont intéressantes. Il y a le challenge intellectuel sur la première phase où tu vas tenter de trouver un mot qui est suffisamment précis pour que les gens s'écartent pas du mot, et en même temps que ce soit compréhensible, etc., etc., quoi, que ça colle toujours au mot précédent, blablabla. Donc là aussi, tu vois, je trouve au final que sur des sensations qui peuvent être un peu identiques, Fiesta de los Muertos y réussit aussi la transformation, quoi.
Ouais, tout à fait.
Pour parler rapidement du matos, le matériel est... Alors bon, forcément, le jeu est paru il y a pas longtemps, donc on peut pas dire s'il tient dans le temps, mais ça m'a l'air plutôt robuste, et tu sais, les ardoises, elles sont plutôt épaisses quand même. Alors, il y a des gens qui ont peur que le crâne qui se plie, hein, que ça se casse.
Ça se casse, ça se déchire.
Bon, au pire, tu foutras un bout de scotch dessus, quoi. Mais je suis assez confiant quand même. Puis on les manipule.
Voir comment ça tient dans le temps, mais effectivement, tu passes pas ton temps à les ouvrir et les fermer, quoi.
Ouais, c'est ça. Tu le fais juste une fois au début de la partie, et après, tout il est fermé, tu le rouvres à la fin, quoi. Donc, ça me paraît pas problématique. Et surtout, ergonomiquement, c'est super bien pensé. Parce que t'as un dessin de crâne, donc, et t'as les dents en bas, et en fait les dents, faut que tu les coloris pour indiquer que tu as donné le mot, donc du coup ça permet de suivre,
pour savoir à quel tour tu en es, en fait.
Ouais, parce que c'est un peu comme dans un jeu de draft, tu sais, tu peux te retrouver avec des gens qui accumulent des crânes parce qu'il y en a qui vont plus vite que d'autres,
ils sont trop lents.
Ouais, c'est ça. Donc du coup tu vérifies bien les dents à la fin pour que t'assurer que le crâne est bien passé 4 fois dans 4 mains différentes.
Ouais, moi là, quand j'ai joué, on a temporisé en disant que ceux qui avaient fini, ils attendaient pour passer leur crâne suivant. Ça, tu passes tous en même temps.
Ouais, c'est le plus simple, on est d'accord. Et en plus, c'est assez drôle, je trouve, parce que c'est pareil, toi, ce truc tout con de colorier des dents, Bah, en fait, ça fait penser à Tran qui aurait une dent en moins et tout. Enfin, même esthétiquement, c'est super bien trouvé,
ouais.
Quoi.
Ouais, c'est joli, ouais. C'est astucieux.
Ouais. J'ai à peu près fait le tour de l'aspect critique du jeu. En termes de public, c'est clairement familial. C'est voilà, bah là pour les fêtes de fin d'année, si vous cherchiez un truc du même acabit que Just One, mais voilà, un peu différent, un peu. En fait, bah je crois on avait discuté ensemble après la partie là. J'avais dit sur le select de proxy jeu. Pour moi, en fait, Fiesta de los Muertos, c'est je sais pas si je vais réussir à la refaire. J'aurais dû l'écrire avant celle-là.
Tu veux que je la fasse?
Fiesta de los Muertos et ta Codenames. Non, just... merci, c'est l'inverse.
Non, t'as Just One, ce que Decrypto et ta Codenames.
Fiesta de los Muertos et ta Just One, ce que Decrypto et ta Codenames. Merci.
C'est ça.
Voilà. C'est-à-dire que c'est un petit cran au-dessus, mais il serait que les sensations, elles sont assez proches. Mais voilà, c'est un côté un petit peu plus gamer. Voilà, donc maintenant faites-en ce que vous voulez, mais je trouve que ce sera
mon. Et puis il n'y a pas le côté pas clivant, mais le fait que Decrypto c'est une super expérience de jeu, mais à l'explication des règles c'est
ah oui, c'est compliqué,
tu comprends,
ouais.
Pas trop tant que tu n'y as pas, ouais. Joué, là on est quand même sur quelque chose qui s'explique très facilement, oui. on est un peu dans la même catégorie que Just One, même si c'est différent, que ça va un petit peu plus loin, ouais. On va dire au niveau du, en termes de règles, on est quand même dans la même catégorie.
Bah ouais, c'est ça, comme Just One, c'est-à-dire que tu peux donner aux gens les ardoises, tu leur dis fais ça, fais ci, fais ça, et ensuite maintenant tu mets un mot qui fait penser,
quoi.
Et puis en fait t'expliques en jouant, quoi. C'est
Ouais, tout. Alors, à fait.
C'est sûr qu'ils seront peut-être pas, enfin, ça sera peut-être pas la partie où
la meilleure partie,
le plus fort, voilà, c'est ça, mais vous aurez quand même bien rigolé.
Ouais.
Donc, ouais, c'est du familial. Ils donnent à partir de 12 ans, je pense que c'est effectivement, l'âge nécessaire pour y jouer, parce qu'il faut quand même connaître les personnages.
C'est les références, ouais, ouais. C'est ça. C'est surtout une question de référence.
Alors, pas forcément que connaître les personnages, d'ailleurs, mais c'est aussi avoir des notions de synonymes, de mots, de champ lexical, quoi, en fait.
Hein. De champ lexical, ouais, tout à fait. Ouais.
Et à savoir qu'il y a des cartes qui sont marquées d'une petite, d'une espèce d'étoile, ouais, c'est ça. Et ces cartes-là sont des cartes qui sont censées être plus faciles. Donc, effectivement, pour 12 ans et peut-être moins, bon, ça se tente, hein, mais il faut jouer avec ces cartes-là, quoi.
Du coup, c'est plutôt des personnages fictifs dans ce cas-là. Enfin, fictifs et
vraiment très connus.
Connus, ouais. Ouais, voilà.
Je sais plus, ouais, je sais plus qui il y a dans les, mais il y a pas que des fictifs, mais il y a beaucoup de fictifs, du coup. Ouais.
Oui.
Il faut jouer. À mon sens, j'ai joué à 4. Ça m'a quand même paru moins bien. Ça m'a paru plus facile. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est un personnage sur lequel que toi t'as vu passer, je trouve que c'est plus facile. Hein.
Oui, à 4, tu les vois tous
voilà.
Passer.
Et oui, bah oui, non, c'est sûr, à 4, tu les vois tous passer, donc
oui.
Donc du coup, je trouve que le jeu est un peu plus facile. Alors sauf que bon, il peut y avoir, tu peux tomber à la pioche entre guillemets à la rivière, là tu peux avoir des personnages qui sont vraiment très,
oui,
proches les uns des autres. Bon,
comme tu mets 8 cartes, potentiellement, c'est plus dilué, le choix est un peu plus.
Ouais, c'est ça. Mais là, ça va beaucoup dépendre du tirage, du coup, je trouve. Mmh. Moi, je conseille à partir de 5. Alors j'avoue, j'ai même pas essayé cette config à 5, mais à mon avis, il faut au moins être 5 pour qu'il y ait au moins une carte qu'on n'a pas vue du tout, quoi. Voilà.
Ouais.
Et donc, on l'a évoqué dans la chronique, j'en ai parlé plusieurs fois, il y a un système de contraintes, donc qui va permettre de renforcer la difficulté du jeu. En gros, on peut appliquer une contrainte sur le premier mot qui va être écrit sur l'ardoise, ou en appliquer plus si on veut renforcer encore la difficulté, donc sur le deuxième mot, puis le troisième, etc. Et les contraintes, c'est des choses assez simples. C'est commencer par, enfin, le mot que vous mettez doit commencer par une lettre en particulier. Il faut que ça rime. Oui, c'est ça. Ça doit rimer en i, par exemple. Donc ça doit finir en i, avec la sonorité i, quoi. Des choses comme ça, où ça doit être un objet, ça doit être un lieu. Voilà. En fait, il y a très peu de contraintes différentes dans le jeu. Il y en a, je sais plus, il y en a quoi, une dizaine.
Ouais.
Dans ces eaux-là, elles sont même listées dans les règles, donc c'est dire. Moi, je trouve ça un peu dommage d'ailleurs qu'il n'y en ait pas plus.
Qu'il n'y ait pas plus, ouais.
Ouais. Mais bon, à la limite, ça, vous prenez un mot pour mot. On parle encore d'un jeu Scorpion Masqué, puisqu'on parlait de Keeper Green tout à l'heure. Prenez un mot pour mot, là, il y a des thèmes dedans. Et puis si le thème vous va pas, bah, vous le jetez, et puis vous en prenez un autre. Ou il y a l'extension de Decrypto, là, qui est sortie il n'y a pas longtemps, Laser. C'est pareil, il y a un principe de thème.
De contrainte, ouais.
Voilà, bon, fait, vous faites un mash-up quoi, de tout ça, et puis vous, comme ça vous avez encore plus de contraintes
vous,
si vous voulez.
Vous inventez vos propres contraintes, hein.
Ouais, exactement.
Pas forcément besoin de d'acheter un autre jeu pour ça. Ouais. Utilisez votre imagination.
Ouais. Ou les jeux que vous avez déjà dans votre ludothèque.
C'est ça.
Donc en gros, je pense que c'est bah moi c'est le jeu que je vais embarquer pour les fêtes de fin d'année, c'est évident.
Je vais prendre
Just One.
Poule.
Et puis je pense que voilà, Poule, on va en parler après. Pour un autre, moi je trouve que c'est quand même un autre type de public. On y reviendra, mais là c'est vraiment un grand public, effectivement au-delà de 12 ans quand même, mais c'est clairement le genre de jeu. Alors je sais pas si Old Chap aura une diffusion suffisamment qu'ils sont dans les GSS parce qu'ils ont Gobit. Et Gobit, ils l'ont placé dans les GSS, donc ils ont peut-être moyen de placer leur jeu dans des plus grandes surfaces que les boutiques spécialisées, et que du coup ça fasse un carton.
C'est qui distribue Old Chap?
C'est une bonne question.
Ok, pas de souci. Tu trouveras réponse plus tard.
En fait, je crois que c'est Paille Édition pour la partie boutique spécialisée, mais ils ont un autre distributeur pour les GSS.
Ah oui, c'est ça. Okay.
Et là, je sais pas. Je ne sais plus.
Pas de souci. Voilà.
Je refais la petite fiche signalétique.
Donc, allez.
Fiesta de los Muertos, c'est un jeu d'Antonin Bocara, illustré par Margot Renard et Michel Verdu. Je sais pas exactement qui a fait quoi, mais en tout cas, c'est vraiment l'esthétique est vraiment respectée et je trouve ça vraiment très très chouette. C'est édité par Old Chap Games pour 4 à 8 joueurs. Et là, je vous conseille plutôt le maximum, quoi. Plus vous allez être nombreux et plus ce sera sympa. Annoncé pour moins de 30 minutes et effectivement en 15 minutes je crois on fait les parties en général.
Ouais 15-20 minutes je pense, ouais. Bon, ça dépend après combien de joueurs t'es et combien de temps les gens mettent à trouver un mot, mais on est sur moins de 30 minutes, ouais.
À partir de 12 ans, 22,50€ chez Philibert, c'est disponible aux dernières nouvelles.
C'est disponible, mais c'était en rupture il y a pas longtemps, donc bon timing. Ça le sera sûrement bientôt.
C'est possible. Eh bien maintenant, donc, je te laisse parler de Poule.
Eh ben oui, passons à Poule. Alors Poule, rien que ce nom est toute une promesse.
C'est clair. Ça vend du rêve.
Ouais, Poule. Donc Poule, c'est un jeu de Charles Bossard. C'est édité par Okaluda, qui est un tout petit éditeur qui s'est créé il y a pas très longtemps, qu'on a eu la chance d'accueillir, d'interviewer à Cannes cette année. Donc à l'époque, Poule n'était pas encore sorti. Ils avaient fait deux autres jeux, un qui s'appelle Camille, ouais. Et l'autre qui s'appelle Samsara. Mm-hmm. Donc Camille, K-A-M-I, hein, comme les esprits japonais et pas comme le prénom français.
Camille.
Et Samsara.
Un prénom français.
Camille, ouais.
Ah, Camille, tu voulais dire.
Oui,
ah,
oui.
D'accord, pardon. Moi, j'y étais pas.
C'est pour pas confondre, tu vois.
Oui.
Voilà, donc un petit éditeur qui a trois jeux qui sont plutôt prometteurs, hein, puisque Samsara, je crois, a été passé par un Kickstarter et avait plutôt bien fonctionné. Camille a eu un plutôt joli succès aussi depuis Cannes. Et puis là, ils sont arrivés avec Poule qui frappe encore un peu plus fort, j'ai l'impression, par rapport à les précédents jeux. C'est distribué par Pixie, c'est illustré par Pauline Berdal, qui avait déjà officié sur Camille, en fait, des mêmes au Caluda.
Ouais, dans un style différent quand même. Hein.
Ou dans un style très très différent, ouais, tout à fait. C'est pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties de 15-20 minutes, on va dire. C'est disponible et à 12,90€. C'est un petit jeu pas très très cher. Alors, qu'est-ce que c'est Poule? Donc déjà le scénario de Poule, c'est assez grandiose. Donc c'est le festival de Cannes et c'est l'avant-première du film Poule. Le film Poule, c'est un film dans lequel il y a des poules, des œufs et des renards. Et le film, la fin du film,
on sent le suspense arriver quand même. Hein. Il y a des renards.
Ouais, le final du film, c'est quand il y a 5 œufs à l'écran, tu vois. Et le truc, c'est qu'il y a une catastrophe. Il y a le projectionniste maladroit qui a mélangé l'ensemble des pellicules. Et donc, il va falloir refaire le film vite fait avant la projection à Cannes. Donc, comment ça se joue? En fait, c'est simplement un jeu de cartes sur lequel il y a des bouts de pellicule avec soit des poules, soit une poule, en fait, soit un renard, soit un œuf. D'accord? Il y a un joueur qui va être nommé réalisateur pour refaire ce film très rapidement. Maître de Poule, selon la règle. Donc ce joueur, il va mélanger toutes ses cartes et il va retourner des cartes les unes après les autres. Lui, il va faire que ça pendant ce tour-ci. Il va faire que retourner des cartes. Les autres joueurs vont devoir observer ce qui se passe. Et en fait, ils vont devoir taper sur le paquet. C'est un jeu d'observation, rapidité et de mémoire. Ils vont devoir taper sur le paquet quand il y a 5 œufs qui sont apparus à l'écran. Sauf que ce n'est pas si simple. Car quand un œuf apparaît, s'il y a une poule qui apparaît plus tard dans le film, c'est pas forcément la carte d'après, mais si elle apparaît plus tard dans le film, elle va couvrir l'œuf. Elle va le couver. Et bien sûr, si un renard apparaît plus tard dans le film, il va manger une poule qui couve. Donc ça va relibérer un œuf.
Ça, c'est super violent comme film. C'est pas un film pour enfants.
Non, c'est assez violent, effectivement. À partir de 8 ans, bon, c'est, il y a pas de sang, hein. C'est, tout est suggéré. Il y a jamais
c'est
de...
Ça, ouais. C'est hors caméra.
C'est ça. C'est tout à fait hors caméra. Du coup, en fait, il va se passer plein de choses. Si une poule arrive et qu'il n'y a pas d'œuf à couver, elle s'en va. Donc elle va pas couver un œuf qui va arriver plus tard. Si un renard, pareil, arrive et qu'il n'y a pas de poule qui sont en train de couver et qui peut manger, il va s'en aller de l'écran. Et donc, il va falloir faire une gymnastique. Donc après, le réalisateur, il peut aller plus ou moins vite en posant des cartes. Les cartes sont superposées, donc on voit pas ce qu'il y avait en dessous. Faut s'en souvenir. Et donc, il y a toute une gymnastique mentale à compter les œufs, à ajouter des œufs quand ils apparaissent, à les soustraire quand il y a une poule qui apparaît et à les remettre quand il y a un renard qui apparaît. Et donc voilà, une fois qu'il y en a 5, il faut taper sur le paquet pour dire ben moi je pense qu'il y a 5 œufs. Donc là il y a plusieurs solutions, soit les autres joueurs sont d'accord et tapent aussi sur la main de celui qui a tapé le premier, soit ils sont pas d'accord et dans ce cas ils tapent pas. Si tout le monde est d'accord, et ben c'est le premier joueur qui a tapé qui va gagner un point. On va pas refaire le film.
Tout le monde est d'accord.
Tout le monde est d'accord, il y avait 5 œufs, voilà.
Le public est conquis.
Le public est conquis, le public est d'accord, le public est ravi. Par contre, s'il y en a un qui est pas tout à fait sûr d'avoir vu les 5 œufs, qui pense qu'il s'est fait arnaquer par le mec qui a tapé là, qui a coupé le film trop tôt, eh ben on va pouvoir, le maître Poulpoul va pouvoir repasser son film au ralenti. Donc là, on va prendre le paquet, on va faire attention de ne pas mélanger les cartes, on va le retourner et on va repasser la carte de la première carte qui a été sortie à la dernière. Et donc là, typiquement, quand on contrôle, bah quand il y a un œuf...
Là, on étale les cartes, quoi. Enfin,
on le met de côté. Ouais, là, on étale les cartes. Donc, l'œuf, on le met bien en évidence. Ensuite, par exemple, s'il y a un renard qui passe, s'il n'y a pas de poule, on l'enlève. Donc, on la défausse, on n'a pas besoin de l'utiliser. Et on va dépiler comme ça. Donc, si on a 2 œufs disponibles et qu'il y a une poule qui arrive, on va la mettre sur un des œufs. Il y a une autre poule qui arrive, on va la mettre sur un autre œuf. Un renard qui arrive, on va enlever une des poules. Et comme ça, on va vérifier si à un moment du jeu, ou en tout cas, si au moment où la personne a tapé, il y a bien 5 œufs.
Ouais, 5 ou plus, ouais, effectivement.
5 ou plus, effectivement, ça, s'il y en a 6, on estime qu'il a arrêté le film au bon moment, parce que le film va pas durer 10 heures non plus, donc faut savoir s'arrêter.
Je trouve ça marrant, ouais, d'ailleurs, cette partie, parce que c'est là que tu vois que l'air de rien, le thème, il est bien foutu, parce que tu fais un pseudo-film avec, enfin, tu peux, t'es pas obligé, évidemment, parce qu'au bout d'un moment, quand tu fais, quand t'enchaînes les parties, tu le fais plus, quoi. Mais, les premières parties que tu fais, ou quand t'expliques le jeu, tu fais vraiment l'espèce de mise en scène. C'est-à-dire que, voilà, t'as un œuf, t'as la poule, elle vient dessus, hop, tu la fais venir dessus,
c'est ça.
Le renard, hop, tu le fais courir derrière, machin, ça c'est...
Oui, en fonction du réalisateur, ça peut être vraiment très roleplay, hein.
Ouais.
Et puis nous, on s'amuse toujours comme, alors je vais l'expliquer, mais, donc c'est le premier qui fait 3 points qui gagne, la partie. Ouais. Et après, il y a plusieurs manières de jouer la partie. Soit, en fait, tu décides qu'il y a un réalisateur fixe pour la partie, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va que dépiler les cartes et c'est les autres qui vont jouer autour de la table.
Elle va pas jouer, du coup. Hein.
Ouais, la personne va pas jouer, mais elle va réaliser le film. Soit tu peux faire tourner le paquet, c'est-à-dire que chacun son tour, les joueurs vont devenir réalisateurs. Et donc nous, c'est marrant parce qu'on jouait un peu sur le fait que il y a des bons et des mauvais réalisateurs, tu vois, où des fois il y a des réalisateurs où il y a du suspense parce que il y a beaucoup de poules, il y a beaucoup de renards, ou alors t'as les réalisateurs où t'as en gros au bout de 6 cartes t'as les 5 œufs, tu vois, et du coup c'est beaucoup moins voilà, c'est
pas le film palpitant, hein.
Voilà, c'est un réalisateur qui va à l'essentiel. Donc nous, on s'amuse assez à définir la qualité de la réalisation, alors que c'est des cartes mélangées, tu sais jamais ce qui va sortir à quel moment.
Mais... Évidemment.
Voilà. Et donc, voilà, j'ai expliqué tout le principe, vous savez tout du jeu.
Tout de la base.
Ouais, de la base du jeu, c'est le premier à 3 points qui a gagné. Alors, bien sûr, expliqué comme ça, on se dit déjà, bon, ok, ça a l'air sympa, mais au bout de 2 parties ou 3 parties, on va se faire chier. Là où ils ont été malins, c'est que ça, c'est les 3 personnages de base, donc avec les règles de base. Et dans la boîte...
Il y a les personnages secondaires.
Il y a une petite flopée de personnages secondaires, de second rôle dans le film. Donc, il y en a quand même 7 différents qu'on peut rajouter et qui vont bien complexifier la partie. Je vais donner, je vais peut-être pas tous les citer, mais je vais donner des exemples qui me font marrer. Le premier exemple rigolo, c'est le canard. Le canard ne sert à rien. Il ressemble vaguement à une poule, donc faut pas le confondre avec une poule, parce que si ça va vite, faut pas penser qu'il va couver un œuf. Mais voilà, le canard, il a aucun effet. Ensuite, on va avoir les, on va dire, ce qui peut contrer un peu les poules et les renards. On a le chien. Donc le chien, lui, il reste en attente devant le poulailler et il effraye le premier renard qui passe.
Ouais, et ça, et il a un effet a posteriori. Ça aussi, des fois, il faut pas confondre. C'est-à-dire qu'il va pas chasser un renard qui est déjà passé, parce que le renard, il a déjà bouffé la poule, donc.
C'est ça. Il faut se dire que quand le chien arrive, il monte la garde. Et donc, dès qu'il y a un renard qui arrive, qu'il y ait une poule à manger ou pas, il va l'effrayer et il va défausser le renard, en fait. Donc, s'il y a une poule à manger, le renard va pas la manger, puisque le chien l'aura effrayé. Il y a le ver de terre qui est le même principe, mais pour les poules. C'est-à-dire que le ver de terre, il traîne dans le poulailler. Et la prochaine poule qui arrive, plutôt qu'elle ait couvé un œuf, elle va aller bouffer le ver de terre. Et donc, elle va sortir du champ et elle comptera pas comme une poule qui couve. Ensuite, on a un truc très marrant avec le chien. C'est le renard déguisé en poule.
Ah oui.
Ça, c'est mon personnage préféré. Bon, déjà, faut pas le confondre avec une poule parce que il peut ressembler un peu à une poule si tu regardes vite. Mais en plus, lui, c'est un renard qui va manger une poule même si le chien est là. C'est-à-dire qu'il est déguisé en poule, donc il va passer la vigilance du chien, en fait, et il va quand même manger une poule. Bon, il en reste plus beaucoup, donc je vais faire les trois derniers, qui sont dans la boîte de base. On a ensuite des œufs d'autruche aussi, ouais, qui sont très très gros, qui valent pour 2 œufs, mais que les poules ne peuvent pas couver, parce qu'ils sont trop gros.
Évidemment.
On a le coq. Donc le coq, lui, c'est un peu le roi de la basse-cour. Quand il arrive, le film est fini, quoi. Donc quand il arrive, le coq, faut taper le plus vite possible, mais... faut pouvoir annoncer, le bon nombre d'œufs qui sont à l'écran. Et enfin, on a le fermier. Le fermier, lui, quand il arrive en jeu, il ramasse tous les œufs. Autruche, poule, il ramasse tout. Et on repart à zéro, quoi, au niveau du comptage des œufs. Mais il ramasse pas les œufs qui sont couvés. Il ramasse que les œufs qui sont visibles. Il bouge pas les poules pour les ramasser. Donc, typiquement, s'il y avait 4 œufs disponibles et qu'il y en avait 2 qui sont couvés, le fermier, il ramasse les 4 disponibles. Mais il faut se souvenir qu'il y en a 2 sous des poules. Donc, si des renards arrivent, ils vont redevenir disponibles, etc. Donc, c'est toujours, voilà. Donc, en rajoutant ces personnages, on peut rajouter toute ou partie des personnages. Hein, on peut vraiment mixer comme on veut. C'est un peu le, alors, sur des parties un peu avancées, c'est le réalisateur qui choisit. Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est que c'est toi qui deviens réalisateur. Tu choisis les cartes que tu veux mettre dans ton film. Et puis, c'est toi qui décides.
Ça se tient.
Dans la boîte, il y a aussi des cartes vierges. Il y a 4 cartes où vous pouvez inventer des personnages. Voilà, ils font un peu appel à l'imagination de chacun. Donc, vous pouvez très bien créer un personnage qui donne quelque chose de, avec un effet particulier ou voilà, qui...
Tout comme
qui a une interaction avec un autre personnage.
Ils disent pas même dans les règles que tu peux, de toute façon tu peux, que ce soit écrit dans les règles ou pas, mais donner un effet différent finalement aux différents personnages.
Si, ils le mettent dans un petit encart. Ils expliquent, ils appellent ça les humeurs du maître Poule. Donc c'est des variantes de personnages qu'ils proposent, mais ils disent bien sûr que tu pourras utiliser tes propres variantes. Donc par exemple, ils ont une variante qui s'appelle le canard gourmand, qui dit que il va manger le ver de terre, donc annulant ainsi son effet. Il y a le fermier fragile du foie qui va pas ramasser les œufs d'autruche. Il y a la règle du, alors c'est pas vraiment sur les personnages, mais ils appellent ça 5 œufs ni plus ni moins. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait 5 œufs pour gagner, c'est-à-dire que s'il y en a plus,
ouais,
tu peux pas taper.
T'as perdu, quoi.
Donc faut attendre que ça redescende que des poules arrivent et que ça redescende à 5. Ce qui est assez marrant dans le jeu d'ailleurs, c'est que moi j'ai déjà vécu des parties où il y avait eu 5 œufs, puis ça avait rediminué et donc les gens avaient tapé 5 œufs une deuxième fois en fait après coup. Donc il peut y avoir un instant T dans le film 5 œufs et personne n'est sûr, donc personne ne tape. Et donc le film continue en fait, tant que personne tape, le film continue. Et donc après, et quand tu refais le ralenti en fait, parce que là il y a des gens qui étaient pas d'accord, quand tu fais ralenti, tu fais « Ah bah là, vous auriez déjà pu taper ». Et il y a encore 10 cartes derrière, parce que les gens étaient pas sûrs.
Et, mais parce que
c'est vraiment très ouvert.
Tu perds des points si c'est pas que si tu...
Ah j'ai pas expliqué ça. En gros, donc si tu tapes le premier et que tout le monde tape... et que tout le monde est d'accord, tu fais un point, les autres font pas de point. Par contre, à partir du moment où il y a une ou plusieurs personnes qui contredisent, on va vérifier le film. Si il y a bien 5 œufs, celui qui a tapé le premier gagne un point, et ceux qui ont pas tapé en perdent un. Par contre, si ceux qui contestent avaient raison, il y a pas 5 œufs, ceux qui ont pas tapé gagnent un point, et tous ceux qui ont tapé, le premier, le deuxième, ou peu importe l'ordre, perdent un point.
J'étais plus sûr de la règle finale, donc je trouvais ça un peu bizarre, mais oui, non, c'est plus logique quand même. Ouais, ok.
Oui. Voilà, donc on peut gagner, perdre des points, sachant que la règle de base, on peut pas descendre en dessous de zéro. Donc si t'as pas, donc les points sont matérialisés par des petits fragments de coquille d'œuf. Et trois points, en gros,
ça fait un œuf complet,
ça reconstitue un œuf en entier. Voilà. Qui a des autres différentes couleurs, donc c'est plutôt sympa. Voilà, dans la règle de base, tu peux pas descendre sous zéro, donc si t'as pas de coquille, tu risques rien de contredire ou voilà, ou de taper trop tôt. Par contre, il y a une variante aussi où ils disent que tu peux aller jusqu'à 3 points négatifs. Donc un joueur peut descendre, donc les œufs sont, il y a un côté gris et un côté coloré. Ils disent que tu peux ramasser des œufs côté gris et en fait ça te fait des points négatifs.
D'accord.
Voilà, il y a tout un tas de, c'est un jeu qui se prête vraiment à tout un tas de petites variantes, de petits trucs comme ça. J'en reviendrai tout à l'heure parce qu'il y a une carte bonus. Alors la carte bonus, je peux peut-être l'expliquer maintenant et après je parlerai de l'extension. Mais il y a une carte bonus qui est loi Oka, donc comme Oka Luda. Donc c'est une carte qui, je sais pas, je l'ai pas personnellement, je sais pas où on peut se la procurer, merci. Mais par contre, comme il y a des cartes vierges, en fait, vous pouvez très bien faire un personnage qui a cet effet-là. Mais Lua Woka, c'est déjà super dur à dire, je pense qu'ils ont fait exprès. Elle, quand elle arrive en jeu, à partir du moment où elle arrive en jeu, les effets des renards et des poules sont inversés. Donc c'est les renards qui couvent et c'est les poules qui bouffent les renards. Ça inverse le... Mais que à partir du moment où elle arrive en jeu. Donc avant c'est normal et après ça s'inverse.
L'effet un peu what the fuck quoi. Bon, ouais.
C'est ça. Mais c'est assez drôle du coup. C'est un jeu qui joue beaucoup sur l'humour. Hein. J'expliquerai après dans l'adéquation thème et jeu. Mais voilà pour les explications. Je pense que je peux pas vous en dire beaucoup plus.
T'as même fait tous les personnages donc je pense que c'est ouais.
Ouais. Et c'est très simple.
Alors après, c'est vrai que c'est pas forcément évident de se représenter. Moi, j'y ai déjà joué, donc du coup, ça va, quoi. Mais j'imagine que se représenter la séquence, tout ça, c'est quand même hyper visuel. Donc, c'est pas forcément évident de se représenter.
Ouais. Bah, Oka Luda a fait une super vidéo pour expliquer un peu le jeu. On pourra la mettre dans le billet, en fait. Ils ont fait une vidéo, justement, qui montre un peu, film noir et blanc, on comprend un peu mieux. Mais c'est vrai qu'on comprend mieux en jouant. Alors. Pour la comparative avec les jeux de la même famille, faut savoir déjà que c'est un jeu d'observation rapidité. Donc là, on pourrait la classer dans la famille des Jungle Speed, des Twin It, etc. Mais il faut savoir qu'il y a une grosse composante de mémoire, en fait, et de gymnastique mentale, de comptage, en fait, qu'on n'a pas forcément dans ces jeux-là. Donc il y a une petite gymnastique en plus. C'est pas que de l'observation rapidité. C'est pas quand on va voir quelque chose.
Non, c'est même pas tant, du coup, observation, en fait. Rapidité, oui, parce qu'il faut taper le plus vite. Mais au final, c'est vraiment de la concentration de, il faut réussir à dénombrer ce qui s'est passé et se rappeler quand même un peu. Typiquement, j'ai fait un moins. Si tu fais, par exemple, t'étais à 3 œufs, tu descends à 2, faut te rappeler que c'était parce qu'il y avait une poule. Parce que du coup, s'il y a un renard qui vient, faut se rappeler que. Tu vois, donc c'est plusieurs éléments dont il faut se rappeler en même temps. C'est un côté un peu comme petit café en fait, tu vois.
Ouais, tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Non, mais y a pas de souci. Pour avoir joué les deux samedi dernier, j'ai joué. Alors c'était un hasard, mais j'ai joué les deux à la suite.
Ouais.
J'ai trouvé ce côté mémoire.
Mémoire et rapidité.
Frénésie. Ouais, mémoire et rapidité. J'ai trouvé ce point commun effectivement à Kikafé et à Poulpoul. Après, j'avais pas d'autres exemples de jeux dans le même type. Enfin, moi, les jeux auxquels je pensais, c'est vraiment les jeux d'observation rapidité.
Non, c'est pas que
de l'observation.
Ouais. La différence avec Kikafé, c'est que dans Kikafé, je trouve que t'as une espèce de nuage de probabilité qui se crée dans ton cerveau. Où tu fais, il me semble que, parce que tu vas pas compter, il y a eu 3 lapins, il y a eu 2, deux chats et 4 poissons, tu le fais pas, t'arrives pas à être aussi précis. T'as plutôt une espèce de nuage de probabilité. Alors que là, il faut vraiment être concentré et vraiment se rappeler.
C'est un comptage assez précis, ouais.
Ouais, il faut vraiment se rappeler. Vraiment, j'ai fait un moins un parce qu'il y a une poule. Je suis à 2 œufs, donc ça, c'est un compte que t'es obligé de tenir. Hein, ça, c'est les œufs que tu vois encore mentalement dans ta tête. Et après le reste c'est effectivement les personnages. Oui, alors il y a typiquement après quand tu rajoutes le chien, il y a un chien, donc attention, s'il y a un renard qui passe, je le compte pas, machin, tu vois. Mais du coup j'enlève le chien. Il faut se faire le film avec les personnages qui sont à l'écran dans sa tête, mais sauf que tu t'arrives pas à te figer une image comme ça, c'est pas possible en fait. Enfin, moi j'y arrive pas en tout cas.
Ouais, moi je fais vraiment sur le comptage des œufs Et donc vraiment, je suis concentré sur le comptage des œufs, des plus 1, les moins 1 quand il y a une poule, les plus 1 quand il y a un renard. J'essaie de... Alors, quand il y a beaucoup de poules, beaucoup de renards, tu sais plus trop combien il y en a eu, etc. Et typiquement, le chien, ouais, tu te dis, bon, le prochain renard, je l'ignore que... Enfin, voilà, le prochain renard, je le compte pas, ça, c'est... T'arrives, c'est pas...
Et t'espères qu'il arrive dans pas longtemps, parce que sinon tu l'auras oublié.
C'est ça. C'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est que bah, l'effet de la carte, ou l'effet d'une carte, elle doit pas forcément être sur la carte qui est juste après. Ou pareil, une poule, elle va pas couver un œuf qui est juste avant. Il peut se passer une dizaine de cartes avant que l'effet s'applique, quoi. Et c'est là où ça devient vraiment casse-tête et tordu. Mine de rien, c'est assez malin, parce que les parties se ressemblent pas. Comme tu mélanges le paquet de cartes, en fait, il y a... En plus, alors que tu joues juste avec le jeu de base, tu peux avoir cet effet où t'as des films qui se ressemblent un petit peu. Mais moi, j'ai toujours l'impression que c'est plutôt bien réussi, parce que j'ai toujours l'impression de qu'il y a, c'est un film différent. Alors, vous n'avez pas l'impression de regarder un vrai film avec un scénario de fou. Hein. Mais t'as toujours l'impression qu'en fait, il se passe des choses différentes d'une partie à l'autre. Du fait que tu mélanges des cartes, que tu peux rajouter ou enlever des personnages, du coup, qu'il y a des protagonistes différents qui apparaissent. Donc, bah ça, c'est un truc que j'ai trouvé assez malin. Et puis, c'est un jeu qui se prête bien à toutes ces variantes, à tous ces ajouts, ajouter ou enlever des personnages. Et ce qui fait que, bah, là où t'as un jeu où, effectivement, moi, je pensais m'enlacer très vite, finalement, alors tu vas pas faire 40 parties de suite, hein, clairement pas, mais finalement, quand tu le ressors, tu fais 3-4 parties, tu peux vraiment varier les parties, en fait, à un instant T, rajouter, enlever des personnages. Et déjà, quand tu expliques le jeu de base, et avec juste les cartes de base, les gens, tu vois, s'amuse déjà, et t'as déjà un vrai challenge de compter les œufs. Et donc après, t'as vraiment tous ces personnages, tous ces ajouts qui font que bah ça renouvelle bien le jeu. Je pense qu'ils avaient détecté que avec juste peut-être les personnages de base, il y avait peut-être un effet de lassitude ou répétitif qui allait arriver. Et le fait de proposer déjà
C'est ce qu'on trouve dans pas mal de ces jeux plutôt vraiment orienté rapidité pour le coup, où tu vas avoir des schémas, en fait tu tentes de créer des schémas de pensée chez les joueurs et tu les casses ensuite avec d'autres en ajoutant effectivement d'autres effets. On parlait de Old Chap, ils ont Gobit chez eux qui fait aussi penser un peu à ce genre de jeu où t'as une chaîne comme ça et puis il va y avoir une carte ou deux qui vont venir casser le truc ou le renverser je sais plus dans Gobit exactement quel genre de carte c'est, mais bon, dans tous ces jeux là dans Crazy Time par exemple aussi où t'as d'ailleurs Crazy Time il y a aussi une histoire de mémoire, non pas vraiment parce que non, il faut juste que tu comptes dans un sens ou dans l'autre, ou je sais plus, enfin bref.
Ouais, mais après, il y a des règles qui font que tu dois pas, il y a des choses que tu dois faire ou pas faire en fonction de telle carte.
Donc, toi, c'est des règles comme ça qui viennent se rajouter.
Mais t'as un peu ce truc-là, ouais, effectivement, ouais. C'est vrai que j'ai pas pensé à Crazy Time, mais il y a un petit côté Crazy Time, les cartes qui arrivent les unes après les autres et où il faut compter, à un moment, faut compter à l'envers, à un moment, faut...
Mais ça, c'est, justement, pour dire que ça, c'est pas la partie la plus originale du jeu, c'est-à-dire que c'est un schéma assez classique dans ce genre de jeu pour, briser les codes qui se sont établis ou, voilà, renouveler les parties.
C'est ça. C'est pas une grande originalité, mais c'est vrai que ça s'y prête bien et puis les effets sont plutôt
c'est des effets qui des personnages qui font un truc et derrière tu rajoutes le personnage qui vient casser l'effet du personnage que tu venais de mettre à la partie d'avant, voilà. Donc du coup ça se répond en fait tout le temps. Ça, c'est bien
tout à fait, c'est plutôt bien trouvé. Bon, sur l'ergonomie, il y a pas grand chose à dire, c'est un jeu de cartes, donc c'est tout à fait classique et tout à fait adapté au jeu.
Et puis c'est hyper lisible, hein. Tu vois le graphisme qui a été, enfin les illustrations qui ont été choisies, elles sont très simples, c'est des traits, je sais pas comment
tout
dire,
à fait.
Mais voilà, c'est du très net, c'est des aplats, je crois, de couleurs, donc c'est
bon, il y a un peu d'ombrage, mais des aplats numériques, je pense, hein, c'est de la peinture numérique, mais c'est vrai que c'est assez clair, les personnages sont assez identifiables.
Tu disais même si tout qu'on peut confondre, tu vois, c'est pas vraiment fait pour t'embrouiller, je trouve. Alors oui, ça ressemble un peu, ouais, si vraiment le mec va vite, je pense que tu peux t'embrouiller, mais bon,
Il peut y avoir des réalisateurs frénétiques. Hein.
Ouais,
j'en ai déjà vu.
Ceux à qui j'ai joué ont dû être un peu plus sympas. Mais ce que je veux dire, c'est pas comme dans Jungle Speed, par exemple, où tu sais, où t'as les croisements qui se font au-dessus, en dessous, ou en dessous, au-dessus, quoi, tu vois.
Ouais. Oui, des trucs vraiment vicieux, quoi. Non, là, c'est vrai que c'est relativement identifiable. Enfin, il n'y a pas de piège visuel très, très marqué. C'est pas là-dessus que, de toute façon, c'est pas là-dessus qu'est la difficulté hein, du jeu. C'est pas sur le visuel, c'est vraiment sur le comptage et la mémoire de ce qui est déjà sorti ou pas. Voilà, bon, ergonomie, pas grand-chose à dire. Après, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Le matos est plutôt sympa, les petits débris de coquilles d'œuf qui sont des punchs en fait, carton
et les
pour compter
cartes.
Les points. Ça rentre dans le thème. Les deux de cartes qui sont très jolies, ouais, qui sont en fait de plein de couleurs différentes.
Pourquoi ?
De quoi ?
On ne sait pas.
Pourquoi on ne sait pas ? Non, on ne sait pas du tout. C'est vrai qu'elles pourraient être toutes de la même couleur, mais ça donne un effet sympa en fait.
Et ça fait parler les gens parce que du coup, les gens ils te voient mélanger ton paquet de cartes avec des dos toutes les couleurs. Et ils font, mais
toutes
les
couleurs différentes,
les couleurs de dos différents. Tu fais, je sais pas.
Bah, c'est juste, c'est ça. C'est juste qu'elle a plein de couleurs différentes et en fait une carte, enfin un dos de carte d'une même couleur peut être.
Tu sais pas.
Enfin, c'est des personnages différents, tu sais jamais. C'est, je pense que c'est assez aléatoire en fait, mais ça donne du cachet, ça donne un petit cachet au jeu. Ouais. Bah sur l'adéquation avec le thème, après alors c'est au départ pas un jeu qui nécessite un thème, enfin voilà, ça pourrait jouer avec n'importe quoi en fait, c'est très mécanique comme jeu, il y a pas beaucoup de thématiques, mais ils ont vraiment poussé un peu le souci du détail sur la thématique, ils ont vraiment essayé d'intégrer ça le mieux possible. Donc déjà le film, bah ça marche plutôt bien par rapport à ce qu'on fait, on déroule des cartes et après on peut les revoir plus doucement, donc le côté défilement, ralenti, ça marche plutôt bien qu'un film. Et après, ils sont partis dans un petit délire d'univers avec des animaux, des acteurs, voilà, ils ont vraiment poussé ça à fond. Et du coup, je trouve ça assez rigolo. Tu vois, sur le bord de la boîte, alors de la boîte intérieure, pas du couvercle, donc sur le bord qui est caché quand la boîte est fermée, et ben, il y a une présentation des acteurs.
Ah, j'avais pas vu ça.
Donc tu vois, il y a Waf, le cousin de Paf dans le rôle du chien.
D'accord.
Il y a Crack pour la première fois à l'écran dans le rôle de l'œuf. Il y a Cocotte, la poule, célèbre danseuse du cabaret, se lance dans le cinéma. Okay. Et puis ils y sont tous, hein, je vais pas tous les faire, mais il y a mon préféré, il y a Rico Coco, le coq, l'ancienne star du P pour trois petits points. Donc bon, okay. On a dit que c'était l'ancienne star du poulailler, hein, mais.
Oui, mais
c'est bon,
ça,
avec un
pense.
Nom pareil, Rico Coco.
Ouais.
Voilà, donc tu vois, ils ont vraiment poussé les petits détails comme ça, qui font que bah c'est très drôle et ça match bien quoi. Même si au départ il y a pas une thématique qui est forte, ils ont vraiment travaillé sur des petits détails pour la rendre forte en fait justement. Donc ça c'est plutôt malin et plutôt bien réussi.
Ouais. Oui, parce que enfin clairement tu joues au jeu, tu passes une bande son de tu sais de des vieilles bobines qui tournent.
Ouais.
Ça le fait à mort, en fait.
Bah, c'est ce qu'ils ont fait sur leur vidéo explicative, je crois.
Ouais, bah,
c'est justement cette ambiance
ouais.
un peu vieille bobine qui tourne avec le petit grain sur l'image.
Non, bah, c'est vraiment con, enfin parce que en plus effectivement ils t'amènent le thème comme étant un peu what the fuck, tu vois, Poule, le film qui sort à Cannes. Déjà en plus Cannes et
Poule, ah ouais, avec le jeu.
Voilà,
puis avec
quoi.
Le jeu, ça a un impact aussi Cannes.
Ouais.
Le jeu,
En plus, ouais. Mais sauf qu'en vrai, je pense qu'il y a une vraie recherche derrière esthétique, parce que esthétiquement, je trouve que c'est vraiment très joli, c'est vraiment réussi.
Ouais.
Et même comme tu le dis sur le thème, quoi, tu l'as bien écrit, mais quand tu poses les cartes, ben c'est vraiment, toi, il y a les images, elles sont dans des bouts de bobine. Alors ça, pour le coup, je pense, ça aurait peut-être pu être mieux fait. Peut-être que tu vois, plutôt que de le mettre de travers, si
ah bon, oui, que ça puisse faire une continuité un peu plus,
plus
évidente.
Bon, après, je pense que ça aurait été moins joli, mais toi, est-ce que ça aurait pas mieux marché pour le thème? Je pensais trop rien. Et puis, tu sais, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu redéroules le film derrière, tu peux vraiment te faire l'animé, quoi. Toi, c'est
ouais, ouais c'est fait. Tu peux te créer tes histoires, quoi.
Ouais, t'as l'air un peu con comme ça, mais voilà, quoi, tu t'éclates.
Il y a un épisode de Kaamelott comme ça où Arthur il joue avec sa nourriture et il fait des petits bonhommes et tout.
Ouais.
catapulte.
Bah voilà, bah c'est ça.
Bah voilà, c'est ça. Tu peux faire ça avec tes cartes. Genre, ah, le renard il arrive.
Donc c'est vrai que parce que enfin moi j'avais essayé le jeu à PEL, d'ailleurs j'avais fait dans le micro débrief là que j'avais fait, j'en avais parlé.
Ouais.
Et on te présente le truc, ça te paraît complètement débile, mais en fait bah ça marche quoi, c'est
ouais,
c'était le thème qu'il fallait. C'est fou, hein.
Après, au niveau des sensations de jeu, sous son aspect très rigolo et très jeu d'ambiance, c'est un jeu où il faut de la concentration. Ouais, ouais, c'est ouais. Un vrai jeu de concentration où ça va un peu chauffer, on va dire, au niveau du calcul dans votre tête, du comptage d'œufs. Ouais. Donc, typiquement, c'est un jeu qui est jouable par des enfants, mais où ça va être très déséquilibré, je pense, si des enfants jouent avec des adultes sur l'aspect concentration, rapidité. Je pense que, enfin, après, ça dépend les enfants, ça dépend l'âge, mais avec, ils disent à partir de 8 ans, typiquement, je pense qu'avec des enfants de 8 ans, ça va pas, si des enfants de 8 ans contre des adultes, ça va pas être vraiment équilibré.
Mais je pense qu'en fait, c'est surtout, faut avoir le cerveau pour, hein. Tu sais, il y a des...
Oui. Il y a des gens qui ont plus de mal que d'autres.
Ouais, c'est peut-être une des critiques qu'on pourrait faire.
Ça peut être un peu clivant,
ouais,
sur ça.
Ça peut être très clivant sur, ça peut être très frustrant, en fait, pour les gens qui n'y arrivent pas. Je pense que c'est...
Mais c'est comme des jeux d'observation, en fait. Je sais que Twinit, par exemple, voilà, il y a des gens qui sont très très forts et donc qui vont tout de suite voir les trucs, et des gens qui sont un peu plus lents ou un peu plus longs à faire les associations. Et donc effectivement, s'il y a une personne très très forte autour de la table, bah ça peut être frustrant pour les autres joueurs. Ça, effectivement, c'est une des critiques qu'on peut faire.
Du coup, faut le faire jouer avec un œil en moins, ou je sais pas, un truc comme
ça. Ouais, faut le désigner réalisateur. Toi, tu fais que tirer les cartes. T'es trop fort. Bah, généralement, moi j'ai joué pas mal au bureau et puis un petit peu à l'assaut. Soit on fait tourner le réalisateur, soit en fait ce qu'on peut faire, comme tu vas généralement faire 3-4 parties de suite, parce que ça peut être très rapide en fait, hein, ça peut, ils disent 20 minutes pour atteindre les 3 points, mais en fait ça peut aller en 5-10 minutes, c'est une personne très forte qui va faire les 3 points rapidement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que le gagnant de la manche précédente devient réalisateur pour la manche, enfin le gagnant de la partie précédente devient réalisateur pour la partie suivante, ou alors même au sein de la même partie, le gagnant de la manche devient toujours réalisateur de la manche suivante, comme ça il joue moins souvent en fait.
Ouais, moi je l'aurais joué comme ça a un petit effet catch-up en fait, justement,
et ça laisse plus de chance aux autres.
C'est du coup, bah forcément il peut pas gagner le tour suivant, quoi.
Il peut pas gagner en 3 coups. Ouais, typiquement si t'es 4 joueurs et qu'il y a un mec très fort qui est pas réalisateur parce que tu tournes d'abord sur les 3 autres, bah, il peut gagner ces trois coquilles alors que les autres ont pas eu la même chance. Ouais.
Ça, donc, ça m'étonne d'ailleurs que ce soit pas ça la règle. Parce que...
Alors je vais revérifier, mais il me semble que...
Non, mais je crois que ça tourne, je crois que tu tournes à gauche, hein, tout simplement, mais... moi, quand ils me l'avaient expliqué sur le festival, c'est eux qui faisaient les réalisateurs, en fait. Donc du coup,
Du coup, ça aide. Ah voilà, c'est là. Soit pour la partie, soit pour une manche. Dans ce cas, les joueurs joueront le maître poule, chacun leur tour dans le sens horaire. Ouais, ils tournent de manière classique. Mais effectivement, dire que le gagnant de la manche devient le maître poule, c'est pas mal parce que ça équilibre un peu les chances au niveau pour faire les 3 points. Donc si quelqu'un qui est très fort, en fait, il va être maître poule une fois sur deux et ça laisse quand même une chance.
C'est ça, oui,
je pense que c'est une bonne variante à proposer.
Moi, s'il est vraiment maître poule une fois sur deux, il va quand même gagner, je pense.
Après les configurations, bah c'est un jeu qui marche donc c'est pour 2 à 8 joueurs. Moi, je l'ai plutôt testé dans des configurations du milieu 4-6. Voilà, ouais, 4-6. Bah ça marche très bien. À 2, il y a une petite variante, puisque là tu peux pas vraiment faire en sorte qu'il y ait un réalisateur permanent d'une manche à l'autre, sinon ça marche pas. Donc là en fait c'est chacun prend une moitié de paquet de cartes et met les cartes chacun met une carte l'un après l'autre, en fait chaque joueur met une carte l'un après l'autre.
D'accord, okay.
Et il faut quand même taper le premier quand ça arrive à 5 œufs. Je pense que ça marche un petit peu moins bien parce que forcément si c'est la personne qui dévoile l'œuf sur lequel tu dois taper qui retourne la carte, il y a un avantage pour l'autre, je pense, donc je pense que la variante à 2, c'est pour dire que c'est jouable à 2, mais je le conseillerais pas à 2 joueurs.
Ouais, c'est vrai que ça, après c'est pas con parce que effectivement ça doit marcher, mais bon,
oui,
ça marche, clairement, hein. Le genre de jeu qui gagne à jouer à 4 5 6 joueurs, parce que
à 4 5
côté fun quand même qui va ressortir, même si effectivement il y a un côté cérébral parce qu'il faut vraiment te rappeler. En fait, tu te marres de voir et les uns réussir et les autres pas y arriver et se planter et avoir oublié un personnage ou je sais pas quoi.
Après, à 8, je pense que c'est assez long, par contre. Enfin, si la partie est relativement équilibrée...
Ah bah, à 8, il faut...
Le temps qu'il y en ait un qui ait 3 coquilles, ça peut rallonger la durée de partie, même si ça reste relativement court. Mais tu peux monter à une demi-heure, je pense, une bonne demi-heure de jeu, quoi. J'ai fait à peu près le tour. Sur la suite, les extensions, contenu additionnel, donc on l'a déjà dit, notamment avec la carte bonus Waoka et puis les cartes que vous pouvez faire vous-même. Mais c'est un jeu qui se prête bien à différents personnages. Et du coup, alors je l'ai pas essayé du tout, mais j'ai vu qu'il y a une extension qui sortait pour Noël.
Ouais.
Une extension qui s'appelle Joie et œuf de Noël. Et donc il rajoute des personnages comme le Père Noël, les lutins, les papiers cadeaux aussi, Roger le fermier qui se déguise à Noël, voilà, enfin, je ne connais pas les effets puisque j'ai pas vu, j'ai pas regardé s'il y avait l'information sur les effets, mais en tout cas, il y a l'information sur l'extension de Noël avec les personnages qui vont avec Noël, bien sûr, qui doivent apporter leur lot
de rebondissements dans le cinéma.
Petit rebondissement. Et donc ça, c'est disponible à 4,50€ ou 5€, je crois, sur Philibert. Voilà, ce qui fait... comme le jeu est déjà pas très très cher, bon, on peut acheter une petite extension à 5€ si vraiment on a fait le tour et vraiment si on aime le jeu et qu'on a bien fait le tour de tous les autres persos. Voilà.
Bah ouais, super.
Bah je crois que j'ai fait le tour. Bah mon avis, c'est que moi, c'est un jeu que je trouve vraiment sympa. J'en ferai pas... en fait, je pense que c'est un jeu qui est bien pour... c'est un bon filler, en fait, que tu vas faire entre deux jeux. Tu vas le ressortir souvent, mais tu vas pas en faire... c'est un jeu qui est rapide, tu vas pas en faire beaucoup, beaucoup de parties d'affilée. Mais c'est vraiment un jeu qui ressort facilement et qui peut s'insérer entre deux jeux. C'est à la fois sur un ton assez léger et assez fun, mais en même temps, un jeu où il y a un petit peu d'enjeu de concentration et... Ça marche plutôt bien. Moi, en tout cas, sur mes cibles, notamment les collègues au bureau avec qui je joue de temps en temps, ça a très bien marché. Et voilà, il y en a plein qui m'ont redemandé comment il s'appelait, s'ils pouvaient l'acheter à Noël, voilà, pour offrir. Ouais. Je pense que c'est voilà un petit jeu qui fait un petit cadeau sympa pour Noël et qui est pas très cher en plus. Donc
Puis l'air de rien, c'est un jeu qui a sa petite originalité. On l'a dit, le thème est raccord, c'est l'univers est fun. Ça a un petit côté jeu à boire. On l'a pas dit, mais ça.
Ah oui, je pense qu'après quelques verres, ça doit être assez rigolo. Ouais. C'est vrai que j'ai pas testé.
T'as pas testé au boulot?
J'ai pas testé le jeu après. Ah non, au boulot déjà, non, nous on n'a pas le droit. Au boulot, c'est l'alcool, c'est attention. Hein. Bah voilà, ouais, c'est un jeu qu'on peut conseiller pour les fêtes.
Je pense que c'est, je l'avais dit aussi dans mon débrief de PL, mais je pense que c'est typiquement le genre de jeu qui plaît à un groupe d'ados, tu vois. Le côté univers fun, ouais. Jeu de rapidité, le truc qui s'enchaîne avec les effets que tu ajoutes, que tu enlèves, tu vois, un peu comme pour lancer des défis à tes potes, tu vois, tu vas rajouter, tu sais, le côté surenchère, etc. Je pense que c'est vraiment la cible, à mon avis. Bon, ça aurait été intéressant de leur demander, mais je pense que la cible, elle est vraiment sur le public ado, ouais.
Sur les ados, ouais. Ouais, les lycéens, tout ça. C'est vrai que moi, au lycée, je connaissais pas tous ces jeux et je jouais que à Jungle Speed.
Donc, si vous avez un ado dans votre entourage, ça peut se tenter.
Ouais. Je vais vous refaire la petite fiche signalétique. Donc, Poulpoul, c'est un jeu de Charles Bossard, édité par Oka Luda, illustré par Pauline Berdal, pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties de 15 à 20 minutes, ou vraiment, si vous êtes nombreux, ça peut aller jusqu'à 30 minutes, si vous êtes nombreux et que c'est assez équilibré. Et c'est à 12,90€.
Ouais, donc on est arrivé à la fin de cette émission. Voilà, on a fait deux jeux parfaits pour Noël, hein, soit les adultes un peu sérieux qui vont jouer ensemble à Fiesta de los Muertos et qui vont laisser les ados jouer à Poulpoul de côté dans une ambiance un peu bruyante. voilà, moi je vois bien la table de Noël là déjà, tu vois, qui se remplit comme ça et avec la bonne humeur autour, ça présage pas mal de bonnes soirées et de bon après-midi. Eh bien, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à venir sur le site pour nous le dire, nous laisser un commentaire. Si vous n'avez pas aimé aussi, vous pouvez nous dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Hein. Voilà, on prendra votre commentaire en compte et on avisera pour les prochaines fois si on peut corriger des choses. Si vous avez aimé, parce que si vous n'avez pas aimé, c'est maintenant que vous le fassiez, vous pouvez aller nous le dire aussi, non pas avec des fleurs, mais avec un tip sur Tipeee ou sur PayPal. Vous trouverez tous les liens qui vont bien sur la page d'accueil du site. Vous retrouverez les jeux du mois le mois prochain, quoi qu'il en soit. Et puis, bah, d'ici là, on vous dit...
Jouez bien.